Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, eh bien, ma femme nous rappelle que la simplicité, que la bienveillance vis-à-vis de soi, c'est le socle de la vie. Et c'est le socle naturel de la vie. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Mftaha Alaoui, bonjour. Merci beaucoup, Lella, d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie, Lella, Mftaha.
Lella, Yasmine, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis enchantée.
Alors, un très joli prénom. Un prénom ancestral. Je connais ta kahed simia Zouina. Fatiha Tkhair.
Au fait, c'est le nom que portait ma tante, la Hamra. Et ma tante, elle était chère à toute la famille et j'ai porté son nom après son décès. Donc, Mftaha, il y a des gens qui ne connaissent pas. Ben, il n'y a rien qu'hier, il y a des gens qui... Il y a le monsieur qui lisait les noms sur la liste et il m'appelait Alaoui Mustapha.
Donc, d'accord. Il lit
la première lettre, la dernière lettre, et voilà. Il me regarde comme ça, il me dit Mustapha, mais il y a une erreur. Donc, monsieur, prenez le temps de lire, c'est Mustapha.
C'est exactement, ça ne peut pas être Mustapha. Alors, est-ce que... Ouais, c'est une question que je pose souvent aux personnes, aux femmes qui portent le prénom d'une personne décédée. Est-ce que c'est lourd à porter le prénom d'une personne qui a existé avant soi?
Pendant l'enfance, c'est un peu difficile à porter parce qu'on ne comprend pas. Il y a les camarades de classe qui ne comprennent pas et c'est un peu difficile au début. Mais par la suite, lorsqu'on connaît l'histoire de la bonne femme et pourquoi on nous a donné ce prénom, ça devient un honneur.
Alors, est-ce que tu retrouves un petit peu une partie de son parcours de vie de femme dans ton parcours à toi actuel?
Oui et non, parce que ma tante Mftaha, la rahma, elle n'a jamais travaillé. Elle était femme au foyer, elle a élevé ses 5 enfants. Mais elle était une femme remarquable. Remarquable de par son élégance, de par la gestion de son foyer, de par l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants. Par contre, moi, mon plus grand combat, c'était le boulot. C'était à l'extérieur. Donc, j'ai changé de métier plusieurs fois et je continue.
Alors, justement, Lella Mftaha, la femme qui me parle aujourd'hui, mon plus grand combat, c'était le travail, c'était le boulot. Pourquoi?
C'est un combat parce que des fois, je ne trouve pas ma place. Des fois, je suis dans un... parce que, bon, pour vous dire, moi, au tout départ, j'avais une école, une crèche. C'était pour les enfants. Une crèche, j'ai dû changer par la suite et m'engager dans un projet de location de voiture. Ensuite, c'était un cabinet d'assurance qui existe toujours. Et là, j'ai une chocolaterie. Donc, vous voyez, c'est un combat, oui, mais alhamdoulilah, je ne regrette rien. Je ne regrette rien.
Alors, quand vous dites c'est un combat, c'est parce que vous n'arrivez pas encore à trouver ce qui vous plaît le plus? Ou bien vous êtes une éternelle entrepreneur?
C'est plus l'éternelle entrepreneur que je suis, oui. C'est plus ça. Parce que franchement, déjà en parallèle avec ça, j'ai une vie associative très active. Donc tout ce qui touche à l'enfance, au départ, et c'était en parallèle. Donc lorsque j'avais l'école, la crèche, je travaillais avec les enfants abandonnés. C'était donc il y avait des enfants, on va pas dire c'est pas les enfants des rues, mais c'est les enfants abandonnés qu'on recueillait à l'association et qui étaient, donc c'était vraiment en parallèle, j'ai travaillé ces deux domaines-là et l'un nourrissait l'autre. Et puis j'ai été élevée comme ça, Mon père, il a toujours été fier de moi, donc il m'a toujours encouragée dans tout ce que je faisais. Donc, c'était plus du courage et l'appétit du risque et d'aller plus loin et de ne pas se mettre de limites. C'est ça ce qui m'a fait un peu changer de métier comme ça. Et je trouve que je suis quelqu'un de polyvalent, c'est-à-dire je ne regrette rien. Je peux très bien être dans l'enseignement, comme être dans les assurances, comme être dans d'autres secteurs. Je trouve que j'ai pas de limite. Et ça, c'est. Il y a des gens qui comprennent pas. Il y a des gens qui disent non, c'est ce changement de profession là, c'est pas. C'est quelqu'un qui est, comment dire, chacun l'a là.
Exactement.
C'est quelqu'un qui va changer, qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors que non, moi je trouve que c'est de la polyvalence.
Alors justement, cette polyvalence-là, pour passer d'un projet à un autre, il y a souvent des étapes transitoires, il y a des moments de doute. Ça ne vous fait pas peur à chaque fois de revivre les mêmes émotions, l'ascenseur émotif, les montagnes russes des émotions?
Oui, absolument. Oui, absolument. C'est pas évident de monter un projet. C'est pas du tout évident. On va pas se le cacher, c'est-à-dire que la condition de la femme et puis ici au Maroc, c'est pas évident de monter un projet. Sur le papier, oui. Sur le papier, c'est facile, c'est-à-dire on se dit, on fait le business plan, on fait tout ça, c'est clair. Mais lorsqu'on est dans le bain, lorsqu'on est devant le client, lorsqu'on est devant, c'est pas la même chose, une femme et un homme. Moi, je me rappelle une fois dans le cabinet d'assurance, on était trois, il y avait moi, il y avait deux filles qui étaient derrière leur bureau, et puis un client, il arrive, il nous regarde, il n'y a personne. Ben, on est là.
Il y a personne, vous savez, il y a pas d'homme, sous-entendu.
Oh là, je l'ai vécu. Il y a personne.
Et voilà, Mtaha, comment vous avez réagi?
On se présente, on se dit voilà, on présente au monsieur, on lui dit voilà, on est là pour vous servir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça.
Et il est resté ou il est parti?
Non, il est resté.
Eh ben c'est bien, vous avez réussi à changer de mentalité peut-être, déjà, à pousser un homme à avoir confiance en le travail d'une femme. Et ça, c'était en quelle année, si je peux me permettre?
C'était vers 2002, 2003.
Donc, ça, c'est récent. C'est récent, ça fait 20 ans, mais c'est après l'an 2000, comme on dit.
Oui.
C'est après l'an 2000.
Je rappelle que j'avais déjà mes filles, oui.
Alors, justement, pour une femme qui est dans l'entrepreneuriat depuis très longtemps et de continuer à penser que l'entrepreneuriat est difficile au Maroc, pourquoi la Lamftah?
D'abord, il y a, si on peut mettre les choses à jour, donc actuellement, il y a la crise, il y a la pré-Covid, c'est affreux, c'est très difficile pour les gens qui veulent commencer ou bien qui ont un projet naissant, qui ont un projet en croissance pendant ces premières années. Donc, c'est très difficile de démarrer, de prendre son élan. Et puis, il y a cette mentalité masculine, si j'ose dire. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le salariat, ça n'a rien à voir. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est à Fès.
Oui, donc c'est différent.
Fès, c'est une école, Fès. Parce que les gens qui réussissent à Fès, ils réussiront n'importe où. Ils réussiront dans le monde entier. Si on arrive à se faire une place et à se mettre debout à Fès, c'est chapeau.
Pourquoi ça?
Parce que Fès, elle a ses ancrages, elle a ses habitudes, elle a ses clients, il y a aussi les familles. Des fois, il y a des familles qui sont connues dans le textile, il y a des familles qui sont connues dans la bijouterie. Et lorsqu'on veut vraiment percer et se faire une place, il faut galérer, il faut vraiment avoir un clan, elle est un peu spéciale la notion d'entrepreneuriat ici en fait.
Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui ne vous a pas fait abandonner cette notion d'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous a amené à créer entreprise après entreprise, projet après projet? Est-ce que c'est un réseau fort? Est-ce que c'est autre chose?
Un réseau fort, oui et non. Oui et non, parce que à travers, comme je vous ai dit, le travail associatif et l'engagement, on se fait un réseau forcément. Donc Parce que au départ, moi, j'étais dans tout ce qui est social, dans l'enfant abandonné, dans les familles pauvres et tout ça. Et par la suite, j'ai commencé à travailler aussi sur le patrimoine, sur le la musique andalouse et tout ça. Donc un peu, je change aussi de
centre d'intérêt.
De centre d'intérêt avec ce qui se passe dans ma vie, avec mes filles qui grandissent, avec aussi mon statut dans la société. Et puis, pour revenir à l'associatif, c'était un peu difficile de travailler tout le temps sur les enfants abandonnés. Au bout d'un certain moment, je les portais dans mon cœur beaucoup trop. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à dormir, je pensais à eux la nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire, après, à l'âge de 17 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et
ça a commencé à me...
Et c'est là où je me suis retirée un peu, parce que c'était un peu lourd à porter. Je me suis... sans limite, je me suis engagée sans retenue.
Corps et âme, comme on dit.
Oui. Il fallait vraiment que je me retire un peu pour reprendre ma vie en main. Mes filles, elles passaient leur bac et je devais absolument me réorienter vers ma vie et reprendre le cours normal.
C'est dur l'associatif avec les enfants. Ça doit être avec les personnes les plus vulnérables en quelque sorte de la société.
Oui, c'est très, très dur. C'est très, très dur, surtout les enfants. Là, on accueillait les enfants qui ont entre 3 et 4 ans et on n'avait pas, c'est-à-dire ils étaient là, nourris, logés et tout. Et puis, on n'avait pas de perspective pour au-delà de 12 ans. Et mettre dans le même espace un enfant de 12 ans et un enfant de 4 ans, c'était un peu difficile.
L'alam ftaha, justement. Une vie finalement avec jusque-là, bien sûr, vous êtes encore jeune, mais une vie jusque-là de touche à tout, une personne touche à tout, une personne très curieuse, une personne ouverte aux expériences. C'est une question d'éducation, c'est une question. Et pourtant, vous dites, c'est difficile pour la femme, c'est difficile. Mais rien ne vous a arrêté, en réalité.
Oui.
Avec du recul.
Oui, absolument. J'avais un papa extraordinaire, une maman magnifique. D'ailleurs, je viens de perdre ma mère il y a 3 mois et quelques jours. C'est-à-dire que déjà, qui m'a cultivé dans l'éducation, mon père, il était fier de moi, quoi que je fasse. C'est-à-dire, vous savez, cet amour inconditionnel que portent les papas. C'est quelqu'un qui va me critiquer, mais gentiment, qui va m'accompagner, même dans mes difficultés, même dans mes erreurs, il va m'encourager. Pour mon père, il était fier de moi. Et puis moi, on est dans une fratrie de 5. Et puis moi, j'ai une ressemblance avec ma grand-mère. Donc, je l'accompagnais partout. J'étais la petite fille avec ses tresses blondes. Il m'emmenait là où il allait. J'étais vraiment très, très gâtée par mon père. Je ne dirais pas gâtée, M. Chouche, mais j'avais bien sûr le cadre à ne pas dépasser. Mais il était fier de moi. Et il m'encourageait à aller plus loin. Et ma mère aussi, c'était dans le respect. Moi, ma mère, c'était dans l'engagement. C'est-à-dire, si tu t'engages à faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il faut pas baisser les bras, il faut aller plus loin. Et puis, on n'a jamais eu... Mon frère aussi, il m'encourage dans mes perspectives. Mais alhamdoulilah, tous les hommes de ma vie, ils étaient à côté de moi. Mon père, mon frère, mon mari, Koulchi. Amashi Wahid Makali, non, ne fais pas ça, c'est... Ils étaient là, ils étaient présents, ils étaient à mes côtés. C'était plus de l'accompagnement. Ce n'était pas vraiment. Ils n'étaient pas dans le jugement, voilà. Non, c'était plus dans l'accompagnement. C'est ce qui fait que j'avais le courage de changer et d'aller au plus et d'aller réaliser mes rêves, quels qu'ils soient, aussi différents qu'ils soient.
Qu'ils soient, c'est ça. En fait, c'est ça, moi aussi, que je retiens de votre expérience, de votre parcours. C'est que oui, au départ, vous avez dit c'est compliqué dans la société marocaine pour une femme d'être entrepreneur, mais vous aviez en vous tous les outils nécessaires, tous les outils qui vous ont été transmis, notamment par les hommes de votre vie, comme vous venez de les appeler inconsciemment. C'est cet outil de « j'ai confiance en toi ». Le premier élément qui vous a été transmis par votre papa, c'est « je te fais confiance ». Voilà. Et l'engagement, comme vous l'avez dit, de la part de votre maman, c'est-à-dire « tu t'es lancé, ben, vas-y jusqu'au bout et tu as, y a la confiance, tu es capable de le faire ». Et donc, en fait, quand l'environnement, si on devait extrapoler cette leçon de vie, même quand l'environnement n'est pas forcément propice, si on a bien structuré l'enfant, son enfant, en tant que parent, maintenant moi je me place en tant que mère, même quand l'environnement, ce qui compte, c'est pas l'environnement, c'est pas là où mes filles, par exemple, vont aller. C'est ce que je leur donne aujourd'hui pour qu'elles puissent s'adapter à n'importe quel environnement.
Oui, absolument. Donc moi aussi, j'ai deux filles et j'essaie de leur donner les mêmes outils pour avancer dans la vie. Et je sais qu'il y aura des difficultés. Donc ça fait partie du jeu. Donc on va pas leur dire allez-y, on est derrière vous, yalla, vas-y à fond. Mais on sait qu'il y aura des difficultés. Le plus important, c'est d'être là lorsqu'il y a les difficultés. C'est des fois il y a des errances, des fois on ne sait pas quoi faire, on n'arrive pas à prendre une décision claire et nette. Et la personne à côté, c'est-à-dire le soutien des parents, il est là pour dire voilà, tu as peut-être raison, tu as peut-être tort, mais vas-y quand même. Si tu es convaincu, vas-y. Donc, il ne s'agit pas de dire, là, ici, il y a une erreur, Anna, je vois qu'ici, il y a une erreur, n'y va pas. Non. Vas-y, vis ton expérience. Et on est là, quoi qu'il en soit. Et c'est ça la différence entre l'accompagnement d'un papa et la société et le jugement. C'est ça la différence. C'est pour ça que je me sens forte par mon éducation et j'essaie de donner ça à mes filles.
Oui. Comme quoi, l'éducation, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment le tuteur qu'on donne à une plante, le bâtonnet qu'on met pour une plante pour qu'elle puisse grimper de façon homogène. Eh bien, l'éducation, c'est ce tuteur-là, c'est vraiment ce socle, c'est vraiment ce pilier autour duquel la personne va s'élever et va pouvoir se réaliser à n'importe quel âge.
Oui, absolument. Et puis chaque expérience, elle apporte son lot de bonnes et de mauvaises résolutions. Donc voilà, on va se dire j'ai échoué ici et là j'ai moins bien réussi ce côté-là. Et puis de chaque expérience, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand même. Donc on va se dire voilà, hadi mziana, la prochaine fois. Je vais canaliser sur ça. Il faut aussi faire remonter les points forts et il faut être reconnaissant quand même. Chaque expérience n'est pas forcément changer de métier ou bien vivre une autre expérience, c'est pas forcément un échec dès la première expérience. Non, c'est pas forcément un échec.
Il y a eu des moments où vous vous êtes dit, mais pourquoi je suis en train de changer? Pourquoi j'ai lâché la crèche? Pourquoi j'ai lâché, très bien, mon assurance fonctionne bien? Pourquoi je vais aller ouvrir une chocolaterie? Pourquoi?
Oui, bien sûr qu'on se pose la question.
Mais sans regret, j'imagine, sans regret.
Non, sans regret. Sans regret. Non. Même lui, par la suite, il m'a dit « tu as bien fait, donc tant pis, ce projet n'a pas marché, c'est pas grave, on passe à autre chose ». Et puis, pour le cabinet d'assurance, il existe toujours. Je suis dans la chocolaterie parce que ma fille, elle fait ses études d'ingénierie en France et lorsque je l'accompagnais pendant, parce que moi, lorsque je me déplace chez ma fille, c'était pendant la période des examens, c'était pas pendant la période des soldes.
J'ai bien la précision. Ok.
Oui, c'était pendant la période des examens parce qu'elle a besoin d'avoir au moins un plat lorsqu'elle rentre, c'est pour la soutenir. Donc, et comme vous connaissez les chambres, c'est un petit 18 mètres carrés, et il fallait la laisser travailler, je sortais et j'assistais aux formations des chocolateries. Donc, il y avait des démonstrations au départ, ensuite il y avait des formations, et puis j'ai pris goût au métier. Et lorsque je suis rentrée, j'ai ouvert ma chocolaterie.
Comme on dit, profiter de capitaliser sur son temps libre, en fait.
Oui.
C'est ça, en fait. C'est joindre l'utile à l'agréable. Alors, une petite question pour finir la lamftaha. Avant de démarrer, quand on était en off, vous m'avez dit, mais ma vie n'a rien d'intéressant. Et je vous ai dit, laissez-vous aller. On va faire une rétrospective ensemble. Alors, vous en pensez quoi, ce bilan de cette discussion?
Je suis l'émission depuis un certain temps. Il y a des femmes qui ont fait des exploits, qui ont des métiers extraordinaires, qui ont beaucoup voyagé, qui se sont installées à New York, un peu partout dans le monde. Et moi, je n'ai presque jamais quitté Fès que pour des vacances. Et je me dis que c'est... j'ai rien à raconter, j'ai rien à dire, mais... En fin de compte, alhamdoulilah, je ne me sens pas amoindrie par ça, je me sens pas moins que les autres. Donc voilà, un parcours bien que ordinaire, ça reste ma vie, j'en suis fière et je ne regrette rien, surtout.
Et vous pensez vraiment qu'il est ordinaire, que c'est ordinaire de se lancer dans autant de projets avec cette confiance en soi, en se disant il n'y a pas d'échec dans la vie? Vous savez, il y a des gens qui ont fait des formations et des burn-out pour arriver à cette conclusion. Le lemtaha.
Ordinaire, je trouve ça ordinaire parce que ça m'a été inculqué depuis l'enfance.
Naturel plutôt, oui, peut-être.
Adi, c'est tout naturel, à fait normal. On change de métier, mais j'ai moi donc la vie continue, la vie est belle et c'est comme ça. Donc pour moi, oui, je trouve ça ordinaire.
En tout cas, c'est une richesse que vous avez. C'est une richesse, cette facilité justement d'adaptation est un véritable plus dans la vie. Et c'est peut-être ça qui vous donne aussi ce timbre de voix vraiment, vraiment reposant. Vous ne prenez pas les choses au sérieux, en fait.
Je trouve que la vie est belle et que on ne peut pas tout maîtriser, surtout. C'est-à-dire, on vit un peu son destin, on vit un peu ce que j'accepte ce que la vie m'apporte. Je ne suis pas vraiment dans la maîtrise. Je ne veux pas tout maîtriser et me dire dans un an je vais faire ça, dans 2 ans je serai là et tout ça. Je prends la vie telle qu'elle est et je ne vais pas dire que je suis heureuse comme ça, mais je trouve mon équilibre comme ça. Je ne cherche pas à tout calculer et à tout prévoir, non. Je me laisse cette liberté de prendre les choses et d'accepter les choses telles qu'elles sont.
Ça s'appelle le lâcher prise, le lamftaha alaoui. Et en fait, encore une fois, je reviens et je dis, des personnes ont dû faire des formations pour arriver à cet état d'esprit. Tabarakallah alik, merci beaucoup de nous avoir rappelé qu'on pouvait encore être comme ça, naturellement et humainement. Lalla mftaha, barakum barouk, lalla, merci beaucoup.
Merci,
merci. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.